petit chat dans ma gorge. Donc, je vais essayer de parler aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Depuis 3 semaines, j'avais hâte que nous continuions notre étude de l'Évangile de Jean. Il était donc important que vous vinssiez ce matin et que vous prissiez connaissance de la suite du récit de l'apôtre au sujet de Jésus, l'homme Dieu. Il y a 3 semaines, nous avons étudié le prologue de l'Évangile de Jean qui introduit l'idée que Jésus est la parole de Dieu. La parole n'est pas juste quelque chose, mais c'est quelqu'un. La parole, c'est Jésus lui-même qui est venu dans le monde pour apporter la vérité de Dieu. Alors, aujourd'hui, on va étudier la deuxième partie du premier chapitre de l'Évangile de Jean. Et nous allons découvrir Jésus comme étant l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Je vous invite donc à suivre dans votre Bible la lecture de Jean chapitre 1, versets 29 à 39. Jean chapitre 1, 29 à 39. Le lendemain, il vit, et c'est Jean-Baptiste ici, le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et moi, je ne le connais pas. Mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. » Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'ils se suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent, « Rabbi, ce que se traduit « maître, où demeures-tu ? » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Je vous invite à prier. Seigneur, nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser et pour éduquer dans la justice. Seigneur, nous te prions de nous aider à comprendre ce que tu as révélé dans ce texte ce matin et d'appliquer ce message à notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Deux fois dans ce texte, Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu. » Il ne dit pas « Voici mon cousin Jésus » ou « Voici un grand prophète » ni même « Voici Dieu parmi nous ». Toutes ces expressions sont correctes et toutes ces expressions auraient expliqué qui était Jésus. Mais Jean-Baptiste a choisi d'appeler Jésus l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Que signifie l'expression « Voici l'agneau de Dieu » ? De tous les noms que Jean-Baptiste aurait pu utiliser pour décrire son cousin Jésus, il l'appelle agneau. Quand on pense à un agneau, quelle est la première chose qui nous vient à l'esprit? On pense à un animal tout doux et tout mignon. C'est quelque chose de douillet, de tendre, de moelleux, de cotonneux. Et c'est probablement pas ce que Jean avait en vue quand il a dit « Voici l'agneau de Dieu ». nous savons que Jésus n'était pas toujours tendre, pas du tout. C'est Jésus qui a dit aux scribes et aux pharisiens, « Malheur à vous, hypocrites !» C'est Jésus qui les a appelés insensés, aveugles et race de vipères. C'est Jésus qui a fabriqué un fouet avec des cordes et qui a chassé les marchands du temple. C'est Jésus qui a réprimandé les disciples à cause de leur stupidité. Il a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. » Il était évident que Jésus n'était pas toujours tendre, ni doux, ni mignon. Alors, quand on pense à un agneau, qu'est-ce qui nous vient d'autre à l'esprit? On pense à un animal simple et peut-être un peu idiot. Ça mange de l'herbe et c'est tout. C'est pas courageux, c'est pas intelligent, c'est pas un bon compagnon pour l'homme, contrairement à un chien. Mais ce n'est pas non plus ce que Jean avait en vue quand il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Bien sûr que Jésus était intelligent. C'est Jésus qui enseignait dans le temple quand il n'avait que 12 ans. Nous lisons dans Luc chapitre 2 que tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Quand Jésus enseignait, nous lisons dans Matthieu chapitre 7 que les foules restèrent frappées de son enseignement. Car il enseignait comme quelqu'un qui avait de l'autorité et non pas comme les scribes ou comme les docteurs de la loi. Si on regarde la vie de Jésus, il ne ressemble pas vraiment à un agneau, ni dans son comportement, ni dans son tempérament. Alors, pourquoi emploie-t-il ce mot? On trouve l'expression « l'agneau de Dieu » seulement deux fois dans toute la Bible. Dans les versets 29 et 36 de Jean chapitre 1. Et en fait, il y a une bonne raison pour laquelle Jean-Baptiste dit que Jésus est l'agneau de Dieu. Vous vous souvenez que dans le prologue, Jean-Baptiste était un messager envoyé par Dieu pour annoncer l'arrivée de Jésus, la parole. Il avait un message spécifique en ce qui concerne Jésus. Le message, c'est que Jésus est le sacrifice ultime, efficace, complet et final pour éradiquer et détruire la malédiction du péché. L'idée que Jésus est l'agneau de Dieu est tout à fait convenable et appropriée. Alors, pour ceux qui ont entendu les mots de Jean-Baptiste, qu'est-ce que ça leur évoque, l'expression « agneau de Dieu » ? Souvenez-vous que les destinataires de l'Évangile étaient des chrétiens qui avaient une bonne connaissance de la tradition juive et qui étaient fortement influencés par les idées grecques. Dans le monde antique, les agneaux donnaient de la laine pour les vêtements, et c'était aussi une source de nourriture. L'agneau était un élément essentiel de toute société méditerranéenne dans l'Antiquité. Les non-juifs sacrifiaient souvent les agneaux pour apaiser la colère des dieux. Mais il faut comprendre que les dieux grecs et romains n'aimaient pas les êtres humains. Et donc, les sacrifices d'agneaux offerts aux dieux servaient plus à éviter la calamité qu'à manifester de l'amour pour les divinités. C'était en fait dans la tradition juive que les sacrifices d'agneaux occupaient le plus d'importance. Et c'est la tradition juive de sacrifice que Jésus a parfaitement réalisé par sa venue. Il y a deux événements dans l'Ancien Testament que je voudrais examiner à propos du sacrifice d'un agneau. Premièrement, on trouve dans Genèse chapitre 22 l'histoire du sacrifice d'Isaac. Vous vous souvenez de ce que Dieu a dit à Abraham. Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et offre-le en holocauste. Il est important de remarquer qu'Isaac est le fils unique d'Abraham, et de remarquer qu'Isaac était aimé par son père. Alors, quand ils sont partis pour se rendre à l'endroit que Dieu avait indiqué, Isaac était rendu compte qu'ils avaient oublié quelque chose d'essentiel pour le sacrifice. Il a dit, « Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» J'imagine qu'à ce moment-là, Isaac était un peu inquiet. Il savait que ses voisins, les Cananiens, pratiquaient les sacrifices humains. Et quand il a vu le feu, le bois, l'autel et le couteau dans la main de son papa, j'imagine qu'il a dû penser à lui-même et se dire, « Oh non !» Mais Abraham, lui, a répondu, « Mon fils, Dieu va pourvoir lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et vous savez ce qui s'est passé. Au moment où Abraham a étendu sa main pour égorger Isaac, l'ange de l'Éternel lui a dit, « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et quand Abraham a levé les yeux, qu'est-ce qu'il a vu? Un bélier coincé dans un buisson. Dieu a pourvu le sang d'un agneau pour remplacer le sang d'un homme. Alors, ce texte est très riche théologiquement, et on n'a pas le temps d'examiner toutes les implications, mais un des aspects que je voudrais retenir, c'est l'idée que Dieu a pourvu le sang d'un agneau. Dieu a pourvu le sang d'un agneau. En avançant de quelques siècles, nous arrivons à un autre épisode très connu dans l'histoire du peuple d'Israël. Les Israélites étaient esclaves en Égypte. Dieu a demandé à Moïse de les délivrer et le Pharaon a dit non. Pour convaincre le Pharaon de changer d'avis, Dieu a envoyé 10 plaies aux Égyptiens. Et c'est le 10e que nous intéresse particulièrement. La 10e plaie, la pire d'entre elles, c'était la mort des premiers-nés. Mais vous vous souvenez que Dieu a pourvu un moyen pour sauver les premiers-nés d'Israël. Et ce qu'il a pourvu, c'était encore une fois le sang d'un agneau. C'était le sang d'un agneau. Dieu a demandé au peuple de prendre du sang de l'agneau et de le mettre sur le deux poteaux et sur le linteau de la porte de leur maison. Dans ce texte, c'est Dieu qui a fourni le moyen de sauver le peuple par le sang d'un agneau. L'agneau est un symbole de la provision de Dieu. C'est un symbole d'expiation. C'est un symbole de justification. La provision de Dieu révèle sa grâce. L'expiation, c'est l'idée que Dieu répare lui-même une relation brisée. Et la justification correspond au fait d'être déclaré innocent par Dieu. J'imagine que quand Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu », il comprenait plus ou moins ce que Jésus était venu accomplir. Les versets 30 à 34 présentent le témoignage de Jean-Baptiste concernant Jésus, l'agneau de Dieu. En fait, l'apôtre Jean admet que la divinité de Jésus ait été révélée par Dieu. Il reconnaît Jésus comme étant agneau de Dieu parce que Dieu le lui a rendu évident. Et au verset 36, il répète « Voici l'agneau de Dieu ». Imaginez la portée de ce titre, agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Personnellement, si on me comparait à un agneau, je le prendrais comme une insulte. Bien sûr, je préférerais être comparé à quelque chose de fort, comme un lion ou un ours, ou à quelque chose de rapide et majestueux comme un cheval ou un aigle. Je préférerais quelque chose qui mérite le respect et la crainte. Pas un agneau bête et méchant, tout faible, tout ridicule, qui mange de l'herbe toute la journée et qui est sans défense contre les prédateurs. Imaginez donc l'humiliation de Jésus. Il est le roi de l'univers, mais il est devenu un simple paysan. Il est le lion de Juda. Il est devenu un agneau. Imaginez que le président de la République, M. Sarkozy, quitte son poste et le palais de l'Élysée pour habiter dans la rue avec les sans-abri. Imaginez que Bill Gates laisse tout son argent pour devenir mendiant. Imaginez que Karim Benzema décide un jour de ne pas jouer au foot, mais de rester volontairement dans un chaise roulante, un fauteuil roulant, pour le reste de sa vie. Mais ça, c'est exactement ce que Jésus a fait quand il s'est dépouillé lui-même. Et prenait la condition d'esclave, et en devenant semblable aux hommes. En fait, en devenant un homme comme nous, il est devenu un agneau comme nous. Plusieurs fois dans la Bible, nous sommes comparés à des brebis. Ésaïe 53, chapitre 53, parle de cette réalité en disant que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié. Et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Jésus, la parole de Dieu, la lumière du monde, est devenu un agneau afin de nous sauver. C'est nous qui méritions d'être mené à la boucherie. Mais le bon berger est devenu un agneau pour prendre notre place, afin de prendre notre place. Donc, comme nous l'avons vu, il y a beaucoup d'importance qui est donnée à l'idée que Jésus est l'agneau. L'importance est si grande que Jean-Baptiste répète ces mots le lendemain. Comme on le voit au verset 36. Jean-Baptiste a choisi ces mots pour mettre l'accent sur la mission de Jésus. Ces cinq mots, voici l'agneau de Dieu, résument bien l'idée que Dieu a fourni un moyen de nous sauver. Ces mots résument le fait que Jésus est le sacrifice final et complet et qu'il est notre substitution, c'est-à-dire qu'il est mort à notre place. Mais contrairement à un agneau qui meurt et qui reste mort, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité et il règne depuis son trône dans les cieux. Dans l'Apocalypse 4 et 5, on trouve une image extraordinaire de l'agneau de Dieu et aussi du Père sur le trône. Alex a lu le texte tout à l'heure. Ce texte parle du trône divin de Dieu qui est assis sur le trône. L'apôtre Jean, qui a écrit le texte, décrit Dieu comme quelqu'un qui ressemble à des pierres précieuses. C'est vrai que personne n'a jamais vu Dieu. Ce que Jean a vu était donc une image de la gloire, de l'éclat, de la splendeur de Dieu. Et avant Dieu le Père, au milieu du trône, il y a un agneau qui semble immolé. Cet agneau, c'est Jésus lui-même. Et ensemble avec le Père, ils reçoivent la louange. Ce texte dit qu'autour du trône, il y a quatre êtres vivants qui chantent un cantique de louange en disant « tu es digne car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Autour du trône et des êtres vivants, il y a les 24 anciens qui se prosternent devant l'agneau, qui se joignent au cantique. Autour des anciens, il y a une myriade d'anges qui chantent l'agneau qui a été immolé et digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. On découvre qu'autour des anges, il y a toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer. Et que toutes se joignent à la louange de l'agneau. C'est une belle image de toute la création réunie autour du trône de Dieu. Pour terminer, je voudrais insister une fois de plus sur l'importance de l'agneau dans la Bible. L'agneau Jésus est le Rédempteur promis par Dieu. Il est le Sauveur envoyé par Dieu. Il est le sacrifice offert par Dieu. Et il est l'objet de toute louange couronnée par Dieu. Pour ceux qui louent cet agneau, il s'agit de louer le Christ, le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour nos péchés, à cause de nos péchés, et qui est ressuscité des morts pour notre salut. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, l'agneau de Dieu, il vous fait une invitation. Au verset 39, Jésus dit aux deux disciples de Jean, « Venez et vous verrez. Venez et vous verrez. » Jésus invite les deux hommes à venir avec lui, à demeurer avec lui, à parler avec lui et à faire sa connaissance. De la même façon, nous tous, nous avons des amis, des copains, des relations qui ne connaissent pas l'agneau. Ils ont des questions, des doutes et parfois de la curiosité. Et on peut offrir à nos amis la même réponse. Venez et vous verrez. Venez et posez vos questions. Venez étudier la Bible avec nous. Venez et écoutez les témoignages de ceux qui ont été sauvés par le sang de l'agneau. L'agneau invite tout le monde de s'approcher dans la repentance. L'invitation de l'agneau est adressée à tous. C'est pour les sceptiques, c'est pour les agnostiques, c'est pour les athées, c'est pour les musulmans, c'est pour les bouddhistes, c'est pour les hindous, c'est pour tous les autres. L'agneau nous appelle à nous repentir et à croire qu'il est le sacrifice ultime et parfaitement suffisant pour notre salut, offert par Dieu dans sa grâce et pour sa gloire. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ce que tu as fait sur la croix. Merci agneau de Dieu. Tu es digne car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Merci Seigneur. Donne-nous Seigneur le courage d'inviter nos amis de venir et de voir de ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen.